Radio Okapi.
La population du Sud Kivu attend beaucoup des autorités congolaises après le départ de la MONUSCO de cette province, notamment la sécurité. Rachel Kessé a promené son micro hier à Bukavu. Vous entendrez dans ce journal les réactions de ces personnes. Mise au point du premier vice-président de l'Assemblée nationale autour d'un ordre de mission pléthorique signé par son président Vital Kamerhe pour un voyage à Montréal au Canada. Professeur Jean-Claude Isaac Tulumbay souligne qu'il s'agit de la fusion de quatre différents ordres de mission avec des personnes différentes pour des forums différents. Notre invitée est Gisèle Sengwa, journaliste productrice. Elle nous parle du festival dénommé Jardin d'enfants qui aura lieu à Matadi au Congo central le 4 juillet prochain. Bonjour à tous. La population du Sud Kivu attend beaucoup des autorités congolaises maintenant que la MONUSCO a fermé ses bureaux dans la province. Les habitants du Sud Kivu attendent de leurs autorités la sécurité, la protection des civils et la pérennisation des acquis de la MONUSCO. C'est ce que pensent en tout cas quelques habitants de Bukavu présents à la cérémonie de fermeture du bureau de la MONUSCO qui a eu lieu hier à l'aéroport de Kavumu. Leurs avis ont été recueillis par Rachel Kessembango.
Le gouvernement a décidé de faire partie de la MONUSCO parce qu'ils sont maintenant capables de prendre les choses en main. Nous sommes toujours derrière le vœu du gouvernement. Mais tout ce que nous demandons au gouvernement, c'est de s'assumer, d'être responsable.
Par rapport à la fermeture de bureaux de la MONUSCO, nous sommes désolés. On aurait voulu voir encore plus des actions de la MONUSCO au niveau du site Kivu. Malheureusement, il y a une fin pour toute chose. Nous demandons aux autorités congolaises de protéger tout ce que la MONUSCO les a acquis, comme biens matériels et immatériels.
Tout ce que nous souhaitons au gouvernement, de sécuriser la population, de ne pas pousser à la population de penser à la MONUSCO après son départ.
Que même la société civile continue à faire le suivi même de tout ce que la MONUSCO a légué comme bien au niveau du gouvernement. Et je pense bien que ça pourra aider à ce que la province puisse être développée et qu'on puisse prendre en considération tous les acquis de la MONUSCO.
Toujours au Sud Kivu, après avoir pris part hier à la cérémonie de la fermeture du bureau de la MONUSCO, la chef du gouvernement congolais, Judith Suminois, poursuit son séjour dans la province. C'est pour elle la toute première visite officielle au Sud Kivu depuis son entrée en fonction. Son agenda de ce mercredi l'a conduit dans la partie sud de la province pour inspecter les travaux en cours sur la route nationale numéro 5 sur l'axe Bukavu-Niantende-Nyangezi-Ngomo-Kamanyola. Dans son discours prononcé la veille à la place de l'indépendance à Bukavu, la première ministre a rassuré le gouverneur de province de son soutien pour booster le développement de la province du Sud Kivu, dont les infrastructures routières sont quasi inexistantes. Quatre ministres du gouvernement siminois font partie de la délégation. Après l'étape de Bukavu, la première ministre, chef du gouvernement congolais, est attendue ce mercredi à Goma au Nord Kivu. Une forte mobilisation des partis politiques est remarquée à l'aéroport et à travers la ville pour accueillir la première ministre et sa suite. Des sources proches de la primature annoncent que plusieurs activités sont prévues pour cette première visite de Judith Suminois à Goma. C'est notamment un tête-à-tête avec le gouverneur de province, la réunion du comité provincial de sécurité, ainsi que la réunion avec les députés provinciaux. Dans son projet d'agenda, il est aussi prévu des audiences avec les différentes couches sociales, ainsi que la visite du camp des déplacés, sans oublier le cimetière de Genocoste. Au Nord Kivu toujours, la protection des droits des enfants dans les sites des déplacés est soumise à rude épreuve dans le contexte de la guerre. En effet, c'est en effet un atelier de sensibilisation de deux jours qui a été organisé à Goma par l'ONG Global Synergy pour la paix et le développement avec l'appui de la section de protection de l'enfant de la MONUSCO. Il a réuni les gestionnaires des sites des déplacés pour les sensibiliser à la lutte contre tout acte qui viole les droits de l'enfant dans les camps dont ils ont la responsabilité. Jean-Jacques Kaboussala, coordonnateur national de Global Synergy pour la paix et le développement, revient sur quelques-unes des violations des droits de l'enfant souvent rencontrées dans les camps des déplacés au Nord Kivu. Il est au micro de Chris Moukand.
La guerre entraîne des conditions favorables pour que les acteurs armés recrutent des enfants. Il y a des enfants qui sont prêts d'être recrutés, peut-être pour être des combattants. Et d'autres sont en train même d'être utilisés dans la perception des taxes, puiser de l'eau, puis la nourriture, transporter les munitions ou transporter des biens ou alors se constituer en agent de renseignement pour les groupes armés. Il y a aussi des cas de violences sexuelles et les viols. Vous allez voir des mineurs aujourd'hui qui se retrouvent épouses, par exemple, des combattants ou soit violés. Il y a aussi des meurtres, des enfants qui ont été victimes de bombardements aveugles au niveau des cas de placés. Il y a beaucoup d'enfants qui sont en train d'être enlevés, soit pour des raisons de recrutement, soit pour des raisons de recherche des rançons, et d'autres cas, par exemple, liés à l'abus sexuel, par exemple, qui rentrent notamment dans les viols. Nous pouvons ajouter aussi d'autres cas liés à l'interdiction à l'accès humanitaire, ou alors à l'occupation des écoles et les structures médicales. Donc tout ça, ce sont des violations graves que nous sommes en train de rapporter partout où il se passe des hostilités. Et nous avons l'obligation de rapporter, nous avons l'obligation de sensibiliser pour qu'il y ait réduction de toutes ces violations graves-là qui sont commises sur les enfants ici à l'Est.
En Ituri, la situation sécuritaire s'est nettement améliorée grâce à l'appui des casques bleus de la MONUSCO au FRDC pour la protection notamment des civils, dont des milliers de déplacés de guerre. Cela malgré les exactions des groupes armés dans certains coins de la province. Déclaration faite hier par le gouverneur de province de l'Ituri au cours de son échange avec le commandant des forces de la MONUSCO qui est en mission dans cette province, Isaac Eremo.
Les forces de la MONUSCO travaillent conjointement avec l'armée congolaise partout en Ituri pour le rétablissement de la paix, affirme le gouverneur de province à son hôte. Le général Johnny Luboya Kachama indique que ces casques bleus sont engagés au front pour appuyer les FARDC jusqu'au sacrifice suprême de leur vie.
La situation aujourd'hui en Ituri, nous vivons une certaine accalmie. La MONUSCO travaille ensemble avec nous. Pendant tous les moments difficiles, leurs hommes meurent ensemble avec nos hommes dans les opérations. Tout ce que nous faisons ici, nous le faisons ensemble avec la MONUSCO.
Le gouverneur exprime également sa gratitude à la MONUSCO pour la protection des déplacés installés dans plusieurs sites dans les territoires des Djougou. Il note avec satisfaction qu'aucune attaque des groupes armés n'est enregistrée dans ces sites depuis plus d'une année.
Les déplacés, aujourd'hui nous sommes arrivés, n'est-ce pas, à mettre la sécurité vers Boulé, Drodro, où nous avions des morts presque chaque jour. C'est tout simplement parce que nous travaillons conjointement avec les forces de la MONUSCO. Nous coordonnons ensemble, nous collaborons ensemble et aujourd'hui, ça fait plus d'une année où on n'a pas eu ces attaques-là des groupes.
Cependant, il reconnaît que certains défis restent à relever, notamment la persistance de l'insécurité vers Mongwalu, où les groupes armés se battent pour le contrôle des sites miniers. Il ajoute que des dispositions sont prises pour restaurer l'autorité de l'État dans cette partie de l'Ituri. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Polémique autour d'un ordre de mission pléthorique signé par Vital Kamerhe, président du bureau de l'Assemblée nationale. Le premier vice-président de ce bureau fait une mise au point sur la mission que devra conduire son président à Montréal au Canada pour participer à la 49e session plénière de l'Assemblée parlementaire francophone. S'adressant à la presse hier dans la soirée, professeur Jean-Claude Isaac Tchulumbay souligne qu'il s'agit de la fusion de 4 ordres de mission avec des personnes différentes pour des forums différents qui devront se tenir en marge de cette session qui s'étalera sur 12 jours. Contrairement aux chiffres avancés dans les réseaux sociaux, il n'y a pas eu abus des finances publiques ni exagération, car les chiffres avancés sur les réseaux sociaux sont faux, souligne-t-il. Le professeur Jean-Claude Isaac Tchulumbay est au micro de Michel Kifine Dangoy.
En ce qui concerne l'ordre de mission, il convient de noter que nous, en arrivant aux fonctions, nous avons trouvé cette mission déjà activée. La correspondance qui invite le Parlement congolais date du 1er janvier 2023. Ça fait pratiquement une année et demie, cette correspondance avait été adressée au président Mbosso et que l'on sait que les visas du Canada prennent énormément de temps pour les obtenir. Il a dû, comme président, organiser ce voyage. Ce qu'il convient de noter, c'est qu'il ne s'agit pas de la même mission. C'est plusieurs forums qui vont se tenir sur 12 jours au total. Lorsque nous arrivons, les autres missions étaient déjà signées. Ceux qui doivent partir avaient déjà leur visa. C'est pas notre bureau qui organise ça. Il n'y a pas d'exagération. Notre peuple est informé qu'il ne s'agit pas d'une seule mission, mais de 3 missions que nous avons préféré mettre ensemble parce que cette fois-là, toutes devront être dirigées par l'honorable président de l'Assemblée.
Le premier vice-président déplore par ailleurs la fuite des documents officiels sur les réseaux sociaux et promet que le bureau de l'Assemblée nationale prendra toutes les dispositions pour sanctionner les auteurs de cette fuite des documents. Dans la ville de Butembo, au nord Kivu, l'eau devient de plus en plus une denrée rare. En effet, à peine 6 000 habitants sur les 2 millions que compte cette ville ont accès à l'eau de la régie des eaux. En cause, la faible production de la compagnie publique qui ne couvre qu'une toute petite partie de la ville. Une situation qui affecte les habitants dont la plupart recourent aux sources d'eau aménagées dans plusieurs quartiers de la ville. Un reportage de Grévis Salomon.
Les deux usines de la régie des eaux qui ravitaillent la ville de Butembo en eau potable datent de plus d'une décennie. La vétusté des installations ne permet pas une production optimale d'eau, ce qui explique la carence d'eau potable sur l'ensemble de la ville qui compte 4 communes. La majorité de la population recourt aux puits et forages privés ou construits par des organisations non gouvernementales au prix des mille et une difficultés. Témoignage de Naomi Kabuyaya, résidente au quartier Biondi de la commune de Kimemi.
Nous sommes obligés de recourir aux eaux de forage que nous payer au quartier à plus ou moins $1, c'est un peu compliqué d'accéder à l'eau potable.
Salamati Kavira habite au quartier Kambali de la commune de Vulamba. Elle aborde dans le même sens et plaide pour l'intervention de l'État pour trouver une solution pérenne à cette situation qui dure depuis plusieurs mois, voire des années, dans certaines communes de la ville.
Notre représentant direct doit y penser rapidement. L'eau, c'est la vie.
Flora Kasereka Kaniki, le responsable intérimaire de la régie des eaux à Butembo, indique que les travaux de construction de la troisième usine de production d'eau potable sont en cours. Pour sa part, le chef urbain du service de l'énergie hydraulique à Butembo dit avoir déjà transmis ses plaidoyers auprès de sa hiérarchie afin qu'une solution soit trouvée. Beni, Grévis Salomon, Radio Okapi.
Dans la province de la Tchopo, l'ambassadeur de l'Union européenne à RDC a inauguré hier à Yangambi la centrale à cogénération, un projet du Centre international de recherche forestière CIFOR. Cette infrastructure de haut niveau dispose d'une capacité de production de l'électricité évaluée à 140 kW. Nicolas Berlanga Martinez plaide pour que les populations riveraines puissent aussi en bénéficier. Comment fonctionne la centrale à cogénération et quelle est son importance? Un reportage de Jacques Moukonkole.
La centrale à cogénération est une infrastructure qui produit de l'énergie verte. Elle utilise les plaquettes de bois afin d'obtenir la biomasse transformée par la suite en électricité et en chaleur. Pour le directeur général de l'INERA, Dominique Kankonde, la mise en place de cette centrale permettra de booster l'économie de cette entité à travers les activités génératrices de revenus.
Ces deux facteurs devraient certainement impulser la transformation sur elle des conditions de vie et de mode de production pour le bien-être à long terme de nos communautés vivant dans le paysage de Yangambi.
Ce projet de CIFOR a été mis en place grâce au financement de l'Union européenne. Le chef de la délégation de cette organisation en RDC, Nicolas Berlanga Martinez, propose que la population de Yangambi puisse également en tirer profit.
Il faut réserver une partie importante de ces générations pour les communautés. De cet ensemble, il y a donc un travail à leur faveur.
La présence du CIFOR à Yangambi s'annonce encore pour le long terme et beaucoup plus prometteur. À en croire son directeur Paolo Cheruti, ceci lui permettra d'implémenter d'autres projets de développement avec l'appui de tous ses partenaires. De retour de Yangambi, Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Au Kassai-Oriental, une dizaine d'agris multiplicateurs et 9 associations maraîchères de Katanda, de Lupatapata et de Kabeyakamwanga ont bénéficié hier de quelques outils aratoires et des semences maraîchères pour augmenter la production agricole dans leurs milieux respectifs. Ces outils ont été distribués par le programme d'appui au développement rural inclusif et résilient PADRIR dans le but d'appuyer la production, la commercialisation et la structuration des filières résilientes au changement climatique. Explication Esther Ndalafina.
C'est dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 1 que le projet PADRIR a procédé à la distribution des outils aratoires et des semences maraîchères à une dizaine d'agris multiplicateurs et aux associations maraîchères de Kabeyakamwanga, de Lupatapata et de Katanda. La cérémonie a été présidée au site PEMKAO en Mbujimayi par le ministre provincial de l'Agriculture. Lex Mwanza, président du conseil d'administration du cadre initiative de développement intégré de Miabi, s'est dit affirme que ces outils viennent appuyer son projet.
Aujourd'hui, nous avons un pesant qui va nous permettre d'aller à une pesée de plus de poids. Alors là, c'est vraiment émergent. Nous avons aussi les pulvérisateurs. Avec les pulvérisateurs, je vais solutionner l'insecticide et vite là j'interviens pour chercher à obtenir la qualité de mes semences.
Signalons que Padrir se propose d'acheter les semences qui seront produites par ses bénéficiaires pour une éventuelle distribution auprès d'autres agri-multiplicateurs et associations qui sont en train d'être identifiées. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Actualité internationale.
La capitale du Kenya, Nairobi, est très calme. Ce mercredi avant midi, dans les rues, il y a encore une forte présence des forces de l'ordre et beaucoup d'écoles sont restées fermées. Les commerçants constatent les dégâts, les boutiques ont été vandalisées. Rappelons que des dizaines de milliers de manifestants sont descendus hier dans les rues pour dire non aux nouvelles taxes proposées par le gouvernement kenyan.
L'invité
de ce journal, c'est Gisèle Sengwa. Et les journalistes productrices, elles nous parlent du festival dénommé Jardin d'enfants qui aura lieu à Matadi au Congo central le 4 juillet prochain. Gisèle Sengwa s'entretient avec Nana Plurich Mambo.
Madame Gisèle Sengwa, bonjour.
Bonjour madame.
Vous organisez le festival Jardin d'enfants ici à Matadi. C'est déjà pour quel jour ?
L'activité du festival Jardin d'enfants sera organisée ici à Matadi le 4 juillet de cette année, de 9h à 15h. Et les droits de participation à cette activité, c'est $12 pour chaque enfant au Flat Hotel Lydia.
Peut-on savoir à quoi va consister cette activité et ça va durer combien de jours?
Un seul jour d'activité, on se rencontre le matin jusqu'au soir, mais au cours de cette manifestation-là, nous aurons des enfants qui vont déclamer des poèmes, il y aura des chants libres, il y aura aussi l'expression des enfants. Donc un enfant qui va nous dire par exemple comment il va s'organiser pendant les vacances, il a combien de frères, combien des animaux à la maison. À part ça, il y a des jeux traditionnels où les enfants courent les pieds dans le sac. C'est vraiment intéressant et puis nous avons aussi invité des groupes de chorégraphes. Il y a une troupe théâtrale, il y a aussi le ballet.
Madame Gisèle Sengwa, d'où vous est venue l'idée d'organiser une activité de telle envergure dans la ville de Matadi?
Madame Plurich, je suis d'abord journaliste productrice. J'ai compris que dans notre environnement, il y a vraiment des émissions adéquates, surtout pour la jeunesse ou les enfants qui manquent dans nos grilles de programmes. Raison pour laquelle j'ai pensé quand même concevoir Jardin d'enfants, mais qui ne se produit pas comme une émission simple. Alors pour étendre un peu mon cahier de charges, j'ai préféré le faire sous forme d'un événement, j'appelle festival, où il y a les parents qui viennent, qui accompagnent leurs enfants, la jeunesse qui vient, et puis il y a quelquefois les écoles qui interviennent.
Qu'est-ce que vous visez en organisant une telle activité? C'est quoi votre objectif?
En organisant de tels festivals, je vise d'abord à offrir aux enfants ce qui leur convient. Vous voyez, à la télé, quelquefois, les enfants regardent le même programme que les parents. Et quelquefois, vous voyez, il y a de séquences qui ne sont pas adaptées à nos enfants. Alors, en tant que professionnel de médias, nous avons ces devoirs-là. Je me suis donné ces devoirs-là de contribuer à l'éducation des enfants. Parce que la télé, c'est un élément très influent à l'éducation des enfants. Et ces images-là, ça reste pendant longtemps possible. Mais pourquoi offrir toujours aux enfants quelque chose de virtuel et d'inconnu? On regarde les blancs, oui, loin d'être raciste. Mais quand il y a des produits locaux, des émissions locales que nous-mêmes les Congolais nous avons produits. Et puis à l'intérieur, il y a nos propres enfants qui sont des participants, des acteurs. Et quand ils rentrent à la maison, surtout que ce sont des émissions en différé, des événements en différé et télévisés, ils rentrent à la maison, ils se regardent. Moi, je me dis, c'est déjà un grand souvenir pour eux. C'est vraiment un élément intéressant.
Madame, vous n'organisez qu'un seul numéro et vous partez ou vous comptez revenir à chaque fois pour nous proposer des activités de telle envergure?
Désormais, Festival Jardin d'enfants sera organisé plus d'une fois par an. C'est une activité qui est un peu difficile à organiser. Il faut avoir des sponsors. Nous avons d'abord pour le 4 juillet le festival et au mois de décembre, nous aurons 3 jours ici à Matadi de la foire où on aura vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'activités intéressantes pour nos enfants jeunes et parents.
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en organisant cette activité et quelles sont les conditions pour participer à ces festivals Jardin d'enfants?
Je commence d'abord par les conditions. C'est $12. $12 parce que c'est organisé à Lédia, il faut consommer auprès des Lédia, il faut mettre les enfants dans de conditions valables. La sécurité, par exemple, Croix-Rouge ou la police qui sera là. Les difficultés que nous rencontrons, d'abord ici à Matadi, il est difficile comparativement à Kinshasa où les parents aiment bien envoyer leurs enfants dans de parcs pendant les vacances comme ça. Ils veulent un peu aider les enfants à se défouler. À Matadi, il faut convaincre plus d'une fois les parents pour les divertissements de leurs propres enfants. Je vois qu'il y a quelques parcs, mais qui sont moins fréquentés. Alors, les difficultés aussi, c'est par rapport aux sponsors. Il y a des sponsors qui posent beaucoup de conditions. Il y a ceux qui promettent pour qu'à la fin, ils ne réalisent pas ce qu'ils disent. Je me dis, il y a des supermarchés, par exemple, ici à Matadi, à Kinshasa. Ils sont souples, mais quand ils arrivent ici, il faut que tout soit renvoyé à la direction générale. Il faut attendre que la direction générale puisse apprécier pour décider. Alors, c'est un peu difficile. Ma demande est que les parents doivent être souples. Parce que l'enfant n'a pas seulement école et église. Ce sont deux lieux très importants, mais il y a aussi un temps pour les divertissements.
Merci beaucoup, Madame Gisèle Sengwa.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est la fin de ce journal sur Radio Kapi. Merci de l'avoir suivi. À la présentation, c'était Noëlla Luzitu Kabambi. La mise en onde est assurée par Billy Landry Betou. Place à présent au journal de sport avec Kanish Mukongo Fwanikizi.